Bonjour à toutes et à tous, nous sommes les étudiants de l'UFE, Institut des études françaises pour les étrangers de l'UPEPA. Dans une série de 3 épisodes, nous vous parlerons des discriminations en France et hors de la France. Merci de nous écouter.
Bonjour et bienvenue à tous, je suis Fernand, étudiant de l'IFEE, et je suis ici avec mes collègues, et pour ce matin, nous avons choisi un sujet très intéressant sur la discrimination des femmes enceintes et les conséquences sur la retraite. Voici notre podcast pour ce matin, Grossesse, discrimination et retraite. Quel lien ? Alors, un rapport de 2020 de la Haute Autorité pour l'égalité des chances, HALT, a révélé que les femmes enceintes font face à une série de défis sur les liens de travail, et une étude menée en 2019 par l'Institut National des études démographiques, les INEP, a révélé que les femmes enceintes sont plus susceptibles de faire face à la discrimination au travail en France que dans des autres pays européens. L'étude a révélé que 10% des femmes enceintes en France ont déclaré avoir été victimes de discrimination sur les liens de travail, contre 4% dans des autres pays de l'Union européenne. Ces rapports et études indiquent que la discrimination à l'égard des femmes enceintes en France est un problème réel et persistant. Pour produire ces podcasts, nous avons contacté un groupe de femmes pour leur poser une seule question. Avez-vous déjà été discriminée en raison d'une grossesse? Et les résultats sont vraiment alarmants. Et pour approfondir ces sujets, nous sommes ici avec Cathy et Tolga.
Bonjour, je suis Cathy et je vais vous parler de discrimination contre la femme en raison de la grossesse.
Bonjour, c'est Olga et je suis enchantée d'être avec vous ce matin.
La protection de la maternité au travail est l'une des plus anciennes normes de l'Organisation internationale du travail. En 2008, la France reconnaît la grossesse des femmes comme un critère de discrimination directe. En conséquence, le gouvernement a instauré une loi qui assure la protection des femmes depuis l'offre d'emploi, jusqu'après la grossesse. La discrimination à l'égard des femmes enceintes au travail est interdite par le code pénal et le code du travail.
Et pourtant, en France, il existe une discrimination à l'égard des femmes enceintes sur les lieux de travail. Bien que la loi française interdise la discrimination pour des raisons de grossesse, de nombreuses femmes rencontrent des difficultés en raison de leur état.
Oui, malheureusement, cette discrimination est normalisée pour la majorité des entreprises. Par ailleurs, un rapport de 2021 indique l'état de grossesse, dans le cas des femmes ou de paternité future, dans celui des hommes, diminue leurs chances d'être embauchées de 15% à la fois dans les sociétés publiques et privées.
Alors, pouvons-nous affirmer qu'aujourd'hui les femmes enceintes peuvent rencontrer des difficultés pour accéder à certains emplois ou pour être embauchées en raison de la perception de leur grossesse? Et si en effet c'est comme ça, cela peut limiter leurs opportunités de carrière et restreindre leur capacité à avancer professionnellement?
Oui, il est encore facilement considéré comme normal d'exclure d'une femme d'un salaire, d'un emploi ou d'un changement de carrière parce qu'elle veut des enfants. Cette discrimination est tellement intégrée par le salarié que ces dernières protestent pas lorsqu'ils ont victime, car cela prend une forme de culpabilité devant leur entreprise.
En effet, en 1930, personne ne s'offusquait parce que la femme n'avait pas droit de vote. Or, maintenant, elle l'a. Et j'espère que dans quelques années, cette discrimination envers la femme enceinte nous offensera aussi, afin qu'elle n'existe plus. Bien que la loi interdit d'aborder ce sujet, les sociétés continuent de poser ces questions indiscrètes. Parmi les témoignages que nous avons collectés, un bon nombre indiquent que lors de son entretien, elles ont dû répondre à des questions comme « Pensez-vous être mère prochainement ?» ou encore « Avez-vous des enfants en bas âge ?» C'est là que l'on se rend compte que la discrimination en raison de la grossesse commence à partir de l'offre d'emploi. Autrement dit, la discrimination commence avant même de trouver un travail.
Et c'est vrai que les employeurs refusent d'embaucher des femmes enceintes.
Ah oui, par exemple, une femme nous a rencontré après avoir passé un entretien et une matinée d'observation au sein d'une entreprise. Comment elle s'est vue opposer un refus d'embauche au profit d'une autre candidate, au motif que cette dernière était plus âgée et qu'elle ne risquait donc pas d'avoir d'enfants et de s'arrêter.
Est-ce qu'on pourrait affirmer que les femmes enceintes font souvent face à la pression de leur employeur pour démissionner ou prendre des congés prolongés?
Effectivement. L'un des témoignages les plus répétés et qui attire personnellement mon attention est le harcèlement au travail que la femme subit pendant les périodes de grossesse, avec des commentaires de leur patron indiquant qu'elle sera mieux à la maison ou encore que sera un grand favor si elle démissionne. Il y a aussi des témoignages dans lesquels leurs supérieurs demandent à leurs collègues de couper les liens avec eux, afin de les isoler et ainsi les forcer à démissionner. Finalement, beaucoup de femmes démissionnent à contre-corps pour éviter un stress supplémentaire pendant la grossesse.
Oui, aujourd'hui, il y a encore des salariés qui sont obligés de signer une rupture de contrat après l'annonce d'une grossesse. Elle ne peut pas dire non à cette proposition parce que leur patron a le bras très long dans le milieu et menacé de ne pas la recommander avec tous ses contacts si elle refuse.
Dans certains cas, les femmes sont également victimes de commentaires offensants ou de moqueries liées à leur grossesse. Parmi les préjudices subis, les femmes salariées peuvent stopper leur évolution professionnelle et leur rémunération, voire avoir le sentiment d'être mis en placard parce qu'on ne leur confie plus de nouvelles missions, dès que les patrons sont au courant de leur grossesse. Par ailleurs, elles reçoivent différentes mauvaises blagues comme « tu ne travailles pas cet après-midi, tu rentres chez toi » ou « ah, c'est vrai, maintenant tu es plus émotif ». Ce qui contribue à banaliser cette discrimination.
Et oui, c'est exactement cette culture péjoratif à l'égard de la grossesse qu'il faut changer.
Et beaucoup d'autres témoignages dénoncent la discrimination qui se produit lorsqu'elles retournent à leur emploi et ne sont pas considérées dans les promotions alors qu'elles remplissent toutes les conditions. Les employeurs ne reconnaissent pas le travail fourni par les femmes avant qu'elles s'absentent pour cause de grossesse. Elles sont même obligées de passer des tests comme si elles étaient de nouvelles employées. Il y a aussi des cas où les chefs forcent les femmes à démissionner. Pour y parvenir, ils commencent une série de changements où ils s'absentent de leur position hiérarchique. Par exemple, ils réintègrent des postes de moins de responsabilité et même dans certains cas, elles sont humiliées devant leurs collègues et le personnel qui savent être en charge.
Mais alors, est-ce que leur salaire est affecté?
Eh bien, les entreprises connaissent très bien la loi et savent que toutes les violences psychologiques peuvent être portées devant les tribunaux. C'est pourquoi le salaire ne peut pas être affecté, puisqu'il est écrit dans un document, et donc une preuve tangible d'une discrimination au travail. En revanche, il est difficile de prouver cette violence psychologique. Pour manquer de preuves, beaucoup de femmes décident de quitter les lois emploi et de ne pas dénoncer.
Et pourrait-on affirmer que ce type de discrimination touche aussi les femmes dans le monde du sport professionnel?
Oui, bien sûr. Vous pouvez regarder Clémence Calvin, Serena Williams, Laura Glosser, Melina Robert-Michon. Elles ont tout un point en commun, c'est qu'elles ont momentanément mis leur carrière entre parenthèses pour donner naissance à leur enfant. Par exemple, la joueuse de volleyball italienne Lara Lugli, qui a 43 ans maintenant, était enceinte en 2019. Le contrat avec son club a été résilié à cause de cette grossesse. Après quelques temps, elle a fait une fausse couche. Mais elle n'a pas revenu dans son club parce que le club a refusé son retour. Après 2 ans, en 2021, son club a commencé à mener une action juridique contre Lugli parce qu'elle a causé une perte d'argent. En raison de ça, grossesse est Et en plus, elle a demandé son dernier salaire après sa fin de contrat. Cette affaire a été rendue publique en Italie et le Sénat, ainsi que des associations, ont vivement réagi en faveur des femmes sportives et contre les discriminations.
Waouh! Mais c'est vraiment une situation qui dépasse les frontières, la discrimination dans le sport ici en France. Les cas les plus récents sont la navigatrice Kremer, qui suscite une conversation ouverte et publique. Cela a touché la conscience collective.
Oui. En effet, en 2022, elle a eu un gros choc lorsque son sponsor, la Banque Populaire, a coupé le financement après qu'elle ait donné naissance à une fille. Elle avait déjà annoncé qu'elle aurait un enfant en 2021. Sachant qu'elle donnerait naissance à un enfant, la Banque Populaire l'a quand même choisie pour le 20 Globe 2024. Mais aujourd'hui, Madame Kramer a appris qu'elle ne pourra pas participer à cet événement parce qu'elle va avoir un enfant. Elle a mentionné sur sa frustration via son compte Instagram, mais ça n'a rien changé. Alors, si une femme qui est une figure publique peut subir une telle discrimination, on peut bien s'imaginer pour les autres qui sont dans l'ombre.
Imaginons, et si la grossesse était une solution et non problème, encore plus en solution à un vrai problème d'actualité, la retraite. Car une hausse de natalité pourrait bien arranger ces problèmes.
Ah, en effet, avec tous les problèmes qui nous abordent en matière de retraite, le monde des affaires devrait exactement changer son regard sur la maternité. Et comme Cathy l'a dit, une hausse de la natalité pourrait devenir la solution pour un problème d'actualité comme il s'agit de la retraite. D'abord, il faut savoir que la base des problèmes des régimes de retraite au niveau mondial, et pas exclusivement en France, c'est les faibles taux de natalité. Au fait, le Japon a fait de la natalité l'une de ses priorités, selon un article paru sur TF1 et rédigé par Julien Moreau le 23 janvier, précisément. Après avoir connu les taux les plus faibles et de risquer une faillite du système de la sécurité sociale, et bien sûr des fonds pour payer aux retraités dans l'avenir.
En fait, la situation était déjà connue par la France depuis longtemps, parce que dans le rapport du Conseil d'orientation de retraite en 2018, il notait que les données observées au cours de 3 dernières années montraient que les estimations sont très en dessous des prévisions de l'INSEE. Le scénario le plus pessimiste tablait sur 1,8 enfants par femme contre 1,95 dans le scénario central. Pour conclure, on peut dire que par rapport aux retraites, le taux de gens qui travaillent va certainement diminuer dans les prochaines années. Le COR disait que les salariés de retraite vont prendre beaucoup de place dans le PIB si le taux de fertilité continue comme cela. Parce que les prévisions concernant le nombre de naissances pour 2018 étaient de 30 000 inférieures à la tendance. C'est-à-dire que dans le futur, il n'y aura pas de personnes qui travaillent pour la France, qui sera un pays où il y aura beaucoup de retraités.
D'ailleurs, un groupe d'experts du FMI a produit un document contenant des sérieux avertissements sur l'effondrement des systèmes de retraite dans le monde. Ils mettent en garde contre les faibles taux de natalité. Ils sont avertis les vieillissements accélérés et les manques de liquidités, même aux États-Unis. Comme des données alarmantes, je vais vous dire que ceux qui ont aujourd'hui 28 ans prendront leur retraite à 68 ans ou encore plus vieux. Dans les années à venir, la baisse de la fécondité et l'augmentation de la longévité modifieront profondément la répartition de la pyramide démographique dans de nombreux pays. Ils calculent que dans 3 décennies, la situation sera intenable. Dans ces cas, et depuis le Japon, comme on disait, ils affichent les recommandations. Les techniciens du FMI visent en grande partie à contenir la croissance du nombre des retraités en modifiant les paramètres clés du système. Par exemple, augmenter les âges de la retraite, bon, c'est toujours la recommandation la plus souvent, durcir les règles d'accès, réduire les montants des pensions à travers l'ajustement des calculs de prestations, dans des autres.
Le Japon n'est pas le seul pays asiatique qui fait face à ces défis. Le taux de natalité baisse aussi chez ses voisins, dont la Chine, où la population a même diminué en 2022, une première depuis 6 décennies, selon un étude faite par l'État chinois même.
Alors, une solution concrète des techniciens concerne les personnes nées entre 1990 et 2009. Il nous explique que dans les économies des pays les plus développés, où les retraites ont été largement réformées, les simulations suggèrent que l'augmentation de l'âge de la retraite de 5 ans par rapport à la moyenne actuelle de 63 à 68 en 2050 comblerait la moitié de l'écart projeté par rapport à ce qu'ils perçoivent des retraites d'aujourd'hui, s'ils apportaient également 6% supplémentaires de leurs bénéfices chaque année. Il semble l'autre moitié de l'écart.
Oui, aussi, j'aimerais ajouter ce que j'ai vu l'autre jour. Selon André Falcon, spécialiste des questions de retraite du FMI, a clarifié le gouvernement national à cette recommandation à être appliquée. Il s'agissait de voir le taux de substitution entre actifs et passifs se situer entre 37% et 43% du dernier salaire. Alors qu'avant, il était d'environ 55%, soit ils n'ont pas enregistré que la réforme a déjà été réalisée, soit ils veulent la baisser à nouveau.
Bon, mais il faut toujours se méfier du FMI.
C'est vrai.
Mais cette fois-ci, il paraît que c'est vrai. L'apocalypse des retraites ne s'arrête pas là. Selon l'Organisation internationale du travail, quelques 90% de la main-d'œuvre mondiale n'est pas couverte par des programmes de retraite qui peuvent leur fournir un revenu de retraite adéquat. Selon le Bureau international du travail, VIT, dans une nouvelle publication appelée Social Security Pensions Development and Reform, éditée par Colin Gillion, directeur du Bureau international du travail, organisme interne de l'Organisation internationale du travail. Pour M. Gillion, les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique dépensent déjà en moyenne 10% de leur produit intérieur brut en prestations de retraite, ce qui est plus que leurs dépenses totales en soins de santé, ces pourcentages et en augmentation. Et M. Gillion a déclaré que les régimes de retraite de l'OCDE sont généralement excellents, mais chers. Et il a aussi ajouté que la meilleure façon de résoudre les problèmes du vieillissement de la population est de relever les âges effectifs de la retraite et d'augmenter le nombre de femmes actives. Alors, comment on peut vérifier ce genre de solutions, comme augmenter l'âge de la retraite? C'est à cause d'une inversion dans la pyramide des natalités. Cela veut dire qu'il y a plus de personnes âgées par rapport à nouveau-né. Et comment se voit ça au niveau mondial? Alors, je vous commente. Par exemple, dans l'Afrique et dans quelques pays de l'Amérique latine comme le Pérou, l'Équateur, le Paraguay, il n'y a pas de problème de natalité. Par contre, dans certains pays comme la Chine et le Kazakhstan, il n'y a pas encore de problème de natalité, mais il y en aura. En revanche, en Australie, en Russie, dans toute l'Europe, au Canada, aux États-Unis, au Costa Rica et au Uruguay, il y a déjà des problèmes de natalité.
Alors, pour finir, quelles solutions pouvons-nous donner?
Il est important de s'attaquer à la discrimination à l'égard des femmes en santé en France, de garantir que des mesures efficaces soient mises en place pour protéger leurs droits en matière d'emploi. Cela inclut une sensibilisation accrue et une éducation sur les droits des femmes en santé, ainsi qu'une application plus rigoureuse de la loi pour garantir que les employeurs ne peuvent pas discriminer en raison de la grossesse.
Il est également très important pour les hommes d'avoir une mentalité sur la grossesse comme les femmes. De plus, les hommes doivent cesser de penser que la grossesse rend les femmes moins professionnelles, parce qu'avec cette pression, les femmes se sentent mal d'être mères. Et ce n'est tout simplement pas juste pour elles, être mère ne les empêche pas de vouloir faire carrière.
Alors, le Japon l'a déjà très bien compris et a mis en place un dispositif pour promouvoir la hausse de la natalité. Le premier ministre japonais a ajouté qu'il voulait doubler à terme les dépenses pour les programmes liés à l'enfance et augmenter la natalité. Par conséquent, faites des bébés.
Au revoir.
Bon, au revoir, c'est tout, ciao.
On espère vous avoir donné des informations intéressantes. On vous souhaite une bonne journée.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes les étudiants de l'UFO, Institut des études françaises pour les étrangers de l'UPEPA. Dans une série de 3 épisodes, nous vous parlerons des discriminations en France et hors de la France. Merci de nous écouter.